Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strauch-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous nous interrogeons sur les vertus de la nuance. Puis, dans la seconde partie, nous accueillons le chercheur en informatique Frédéric Pro. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Notre sujet du jour, faut-il être nuancé ? Tout commence par un sentiment d'oppression. Si j'ai écrit ce livre, ce n'est pas pour satisfaire un intérêt théorique, mais parce que j'en ai éprouvé la nécessité intime. Il fallait nommer cette évidence. Dans les controverses publiques, comme dans les discussions entre amis, chacun est désormais sommé de rejoindre tel ou tel camp. Les arguments sont de plus en plus manichéens. La polarisation idéologique annule d'emblée la possibilité même d'une position nuancée. Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison, disait naguère Albert Camus, et nous sommes nombreux à ressentir la même chose aujourd'hui, tant l'air est irrespirable. Ainsi s'ouvre le livre de Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres, « Le courage de la nuance » qui vient d'être publié au Seuil. Dans l'introduction de cet ouvrage, qui est en fait une galerie de portraits d'intellectuels, l'auteur regrette la polarisation du débat et la nécessité présente de devoir choisir son camp, une tendance stimulée, dit-il, par les réseaux sociaux. Il propose alors un éloge de la nuance, une radicalité qui consiste à, ouvrez les guillemets, se tenir sur la corde raide sans jamais rallier un camp, briser quelques non-dits et parfois trancher dans le vif pour susciter le débat, mais sans occulter tel aspect du réel, telle contradiction. Alors cette définition est un peu vague, mais on voit à peu près ce qu'il veut dire. Et je dois avouer que j'ai très longtemps partagé la position de Jean Birnbaum. J'ai longtemps pensé que la meilleure position dans un débat, c'est celle qui recherche le compromis, celle qui refuse les extrêmes, qui voit des arguments valides de part et d'autre. Alors je le pense toujours en partie, mais depuis quelque temps, je suis venue à douter de cette conviction. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, rapidement. D'abord, en revenant à la définition du dictionnaire. Qu'est-ce qu'une nuance ? C'est, ouvrez les guillemets, chacun des degrés, des tons différents d'une même couleur, ou chacun des degrés intermédiaires entre deux couleurs. Par exemple, les 1000 nuances du soleil couchant. Or, il est indubitable qu'il existe des questions sur lesquelles la nuance n'est pas possible. Peut-on être nuancé sur la question de l'islamisme, sur la question de la peine de mort, ou encore sur celle de l'existence d'un racisme systémique ou de ce que nous appelons Peggy, et moi, la politique identitaire qui nous vient des États-Unis ? Eh bien, je ne pense pas. Je pense qu'il existe des sujets sur lesquels on ne peut tout simplement pas être nuancé, sur lesquels il ne peut pas y avoir de bleu clair ou de bleu foncé. Par ailleurs, les figures que j'admire le plus, je pense à Solzhenitsyn, au philosophe britannique Roger Scruton, au philosophe libano-américain Nassim Nicholas Taleb, et dans un tout autre registre, Margaret Thatcher, ces figures n'ont absolument rien de nuancé, bien au contraire. Pour toutes ces raisons, et parce que le sujet est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui, j'aimerais beaucoup creuser la question avec toi, Peggy.
Je suis stimulée de partout. Je ne sais plus où en donner la tête. En fait, je te rejoins sur ce que tu dis. Je suis aussi sur cette pente. Et moi, il y a notamment un exemple qui illustre bien un moment où la nuance est impossible. C'est les sujets scientifiques. Et c'est un cas vraiment où la nuance, en fait, sous couvert de tolérance, est une stratégie de louvoiement. Alors, le cas d'école, c'est vraiment l'opposition entre la biologie et la religion. Il y a un livre qui a été publié en 1999 en version originale de Stephen Jay Gould, qui s'appelle « Works of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life », qui traitait de la relation entre science et religion. Donc Stephen Jay Gould, c'est un paléontologue à Harvard, c'est un vulgarisateur hors pair, que je n'apprécie pas beaucoup. Ça, je pose mon biais. Je ne l'aime pas trop, et c'est même un euphémisme, parce qu'il a été plus que critique sur l'application de la biologie au comportement humain, et il a été notamment, et c'est pour ça que je lui en veux le plus, il a été l'architecte de la cabale contre Edward Osborne Wilson quand il a fait paraître Sociobiologie en 1975. Donc voilà, ça s'est dit. Donc son livre a été traduit l'année suivante, donc en 2000, aux éditions du Seuil, sous le titre « Et Dieu a dit que Darwin soit ». Science et religion, enfin la paix. Donc Gould, sa grande théorie, c'est que la science et la religion sont plus qu'irréconciliables, mais en fait, elles occupent deux pans différents du rapport au réel. Donc d'un côté, il y a le jugement de fait, la science, face au jugement de valeur et aux principes et aux jugements moraux de la religion. Donc sa grande théorie, c'est le principe de NOMA, donc qui est acronyme pour Non-Overlapping Magisteria, donc non-opiètement des magistères en bon français. Donc dans son livre, Gould parle du prétendu conflit entre science et religion, lequel n'existe que dans l'esprit des gens et dans les pratiques sociales, nullement dans la logique ou la visée propre de ces deux domaines entièrement différents et aussi essentiels l'un que l'autre. Et donc selon Gould, le conflit entre science et religion est, je cite encore, le plus grand faux problème de notre temps. Donc qu'est-ce qu'un magistère et pourquoi est-ce que les magistères de la science et de la religion n'empiètent pas ? Donc un magistère, c'est un domaine qui a ses règles propres. Je cite encore Gould, « La nasse de la science, son magistère, concerne le domaine empirique. En quoi consiste l'univers, entre parenthèses les faits, en quoi il fonctionne ainsi, entre parenthèses la théorie. Le magistère de la religion s'attache, lui, aux significations ultimes et aux valeurs morales. » Donc selon Gould, le principe de Noma exige de reconnaître que la religion ne peut plus dicter le contenu des conclusions factuelles relevant du magistère de la science et que cette dernière, même à son mieux, n'induit pas de vérité morale. Donc pour résumer le principe de Noma selon Gould, ça exige la séparation entre la factualité de la nature et la moralité humaine. Donc selon lui, les deux camps ne s'opposent pas, celui de le camp de la science et de la religion, et il va plus loin, il dit, je le paraphrase, que les deux seuls camps qui s'opposent, c'est celui des partisans du Noma et celui de ceux qui s'y opposent. Donc voilà, comme d'hab, Gould, si nos auditeurs ne le connaissent pas, qui a effectivement beaucoup de qualités, notamment de vulgarisateur, mais qui a aussi beaucoup de défauts, et là, c'est un de ses plus gros défauts, c'est à la fois, il nous fait le mi-chèvre, mi-chou, et en plus, celui qui a tout compris, mais tout le monde. Et moi, je trouve en fait que c'est en fait une position assez facile et j'oserais même dire assez pleutre parce qu'en fait les magistères de la science et de la religion empiètent complètement, premièrement, et deuxièmement que l'empiètement vient de la religion. Pour le dire autrement, il est en fait assez facile pour un scientifique d'ignorer la religion, mais pour un religieux c'est beaucoup plus difficile d'ignorer la science. Et un exemple plus précis, c'est que qu'importe leur subtilité poétique, en fait, toutes les religions présentent l'humain comme le centre du monde, un être spécial, meilleur que tous les autres animaux, et ça va en fait à l'encontre de la biologie évolutive, et donc il est tout simplement impossible de concilier théologie et science. À mon sens, ici, c'est un cas où la nuance est impossible, et si justement on veut faire la nuance comme Gould le fait, bah, à mon sens, on voit dans une espèce de tambouille qui n'est pas très opérante, et moi, ça m'a rappelé en fait quelque chose, enfin une maxime que souvent on se dit entre journalistes et notamment entre journalistes scientifiques qui est si quelqu'un te dit qu'il pleut et que quelqu'un d'autre dit qu'il fait soleil, ton boulot c'est pas de citer les deux, c'est d'ouvrir ta fenêtre et savoir qui dit vrai.
Mais qu'est-ce que ce serait concrètement aujourd'hui quelqu'un qui prétend avoir une position nuancée entre la science et la religion au sens large ? Est-ce que tu pourrais donner un exemple ?
J'ai envie de dire toutes les religions sauf l'islam sont un peu sorties du débat public et je pense que c'est bien, en tout cas moi, à mon sens c'est bien. Donc c'est effectivement qu'aujourd'hui ces discussions ne sont plus trop sur science et religion, mais c'est par exemple... tous les discours issus des sciences humaines foucauldiennes ou qui interprètent mal, qui sans doute interprètent mal Foucault, mais en tout cas elles se prétendent de Foucault, qui disent que la science est une construction sociale, qu'on fait des catégories, et notamment des catégories hommes-femmes, de manière totalement artificielle, qu'on impose un pouvoir sur les choses, sur la vie, etc. Alors qu'en fait, c'est prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, il y a des réalités qui existent, c'est-à-dire que la division des sexes existe partout, dans toutes les espèces sexuées animales, et ça en fait quand même beaucoup sur Terre. Et ensuite, effectivement, le discours scientifique à poser des noms, des catégories, des façons de classer, des logiques, etc., sur cette réalité, mais qui préexiste, en fait, au discours scientifique. Et ça, on est typiquement dans ce qu'on pourrait appeler une opposition entre un discours de type religieux et un discours de type factuel, qui sont effectivement irréconciliables. Il y a un moment où la nuance ne peut plus tenir.
Oui, bien sûr. Oui, parce que je comprenais mal, en fait. Je pensais que c'était c'est les constructivistes qui étaient pour toi ceux qui avaient la position nuancée. Mais ce que tu dis, en fait, c'est que la nuance, ce serait de penser qu'on peut tenir les deux bouts. Penser qu'on peut avoir une vision scientifique du monde et à la fois une vision constructiviste, alors qu'en fait, il faut choisir. Bon, il faut choisir la science, en l'occurrence. mais oui, tout à fait.
Pour finir là-dessus, en fait, c'est ce que Pinker dit assez souvent, et notamment dans The Blank Slate, donc ça a été traduit Comprendre la nature humaine, je crois, en français, où il pose cette absurdité contemporaine qui est que, justement, on considère le discours constructiviste comme la nuance, en gros, et le discours, justement, pas biologisant, mais qui dit qu'il y a des facteurs biologiques et des facteurs sociaux comme le radical, pas le radical, mais comme l'extrémiste, alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est le discours constructiviste qui est totalement, totalement justement là, on voit la filiation avec le discours religieux et le discours, typiquement à la Pinker ou à la moi ou toi ou plein d'autres gens qui disent que voilà, il faut savoir qu'on vient pas de nulle part et qu'on n'est pas des purs esprits, des pures constructions sociales, etc. Ça, c'est un discours qui est nuancé, quoi.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant parce que ça rejoint tout à fait ce à quoi je faisais allusion au début en disant qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas vraiment avoir une position nuancée. C'est-à-dire, pour reprendre ce que tu dis, on est un peu pour la science, un peu pour le constructivisme. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça montre que l'idéologie, par nature, et quelque chose qui est contraire à la nuance, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est extrême, à mon avis. Le problème n'est pas la radicalité ou le fait d'être extrême. Il faut parfois être extrême. Je pense que le problème de l'idéologie, c'est qu'elle est prévisible. C'est-à-dire que quand on sait ce que quelqu'un pense sur un sujet, on peut prévoir ce qu'il pense sur un autre. Et moi, j'appelle ça des clusters intellectuels. Et ça, en effet, c'est quelque chose de négatif. Et on pourrait dire que, oui, la bonne nuance, ce serait d'être capable de ne pas être prévisible. D'être capable, de sur un sujet A, de penser X, et sur un sujet B, ne pas penser X, mais Y. Or, c'est quand même assez rare. Donc, pour le coup, oui, alors, c'est pas comme ça que Jean Birnbaum le dit dans son livre, mais moi, je pourrais le rejoindre peut-être là-dessus. Après, là où je le rejoins moins, et je rejoins moins aussi les positions qui cherchent à être tout le temps médianes ou entre deux, c'est qu'en fait, il y a une différence aussi entre la radicalité et la bêtise. Et je pense que un des grands problèmes d'aujourd'hui aussi, c'est que les discours qu'on trouve radicaux, notamment sur les réseaux sociaux, ce sont tout simplement des discours très bêtes. Mais vraiment stupides, qui sont aussi radicaux, mais qui ne sont même pas pensés, qui ne sont pas réfléchis et qui ne sont pas précis du tout. Et donc là, on est aussi dans une toute autre question que la question de la nuance. On est tout simplement dans la question de l'intelligence. Et puis alors, pour finir, je pense qu'en fait, ce qui serait idéal aujourd'hui pour le débat intellectuel, c'est d'arriver finalement à allier deux positions qui ont l'air contradictoires. L'une, c'est d'être sceptique vis-à-vis de tout. Toute assertion, avoir envie de la vérifier, de voir d'où elle vient, être sceptique vis-à-vis de soi-même, Ça, c'est, je pense, une sorte d'hygiène intellectuelle qui est indispensable. Mais d'un autre côté, il faut quand même garder des certitudes qui sont souvent issues d'intuition ou d'expérience. Et ces certitudes sont importantes. C'est un peu les choses que je citais tout à l'heure, hein, quand on parle de la peine de mort ou de l'islamisme, hein, je prends un petit peu au hasard. On a chacun des certitudes et souvent, en général, dans la démocratie, en démocratie libérale, on est tous contre l'islamisme et on en est sûr. Et je pense que c'est très important d'allier ces deux attitudes, donc scepticisme et certitude, mais c'est très difficile parce qu'en général, ce que je remarque aussi dans le débat public aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui sont tout le temps sceptiques, y compris envers eux-mêmes, et puis des gens qui sont tout le temps sûrs. Mais on a rarement des gens qui sont les deux à la fois.
En fait, souvent, quand on dit oui, aujourd'hui, le discours n'est pas nuancé. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, il y a les réseaux sociaux qui arrivent. À un moment ou un autre, c'est que voilà, maintenant, aujourd'hui, on n'est plus nuancé à cause des réseaux sociaux. Birnbaum le dit tout au début de son livre. Et moi, en fait, c'est une question que je me pose quand même depuis assez longtemps. C'est en fait, pourquoi est-ce qu'on accorde autant de crédit aux réseaux sociaux et pas seulement aux réseaux sociaux, c'est plus précisément à Twitter. Étude après étude, on sait que voilà, que c'est pas représentatif. Si l'élection de 2017 avait été jouée sur Twitter, ça aurait été, j'exagère à peine, Benoît Hamon en premier, Jean-Luc Mélenchon en deuxième et Philippe Poutou en trois, tu vois. Donc, si Twitter disait quelque chose du réel, il y aurait jamais eu de Brexit, il y aurait jamais eu Donald Trump, il y aurait aussi jamais eu les gilets jaunes. Et ça, c'est un point que je voulais quand même appuyer, c'est que une grosse partie du pourquoi est-ce que les gilets jaunes ont été ignorés des journalistes, c'est qu'en fait, ça se passait sur Facebook et pas sur Twitter. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, je fais partie de ces gens qui sont quand même très, très stupéfaites de l'importance qu'on donne à Twitter. Et c'est sûr que là pour le coup, c'est peut-être pas très visible dans un journal, et heureusement, comme Le Point, mais moi qui travaille beaucoup et qui ai beaucoup travaillé dans des journaux web, moi, ça m'a toujours, et ça continue à m'halluciner, en fait, comment est-ce qu'on pense que Twitter est donne le pouls du monde, tu vois. C'est un peu en train de se calmer, c'est plus la grosse apogée comme ça a pu l'être. Mais voilà, tout ça pour dire que dans ces discussions sur « oui, on est plus nuancé parce que les réseaux sociaux disent ci, disent ça », mais personne ne vous oblige à vous plier à ce discours qui n'est même pas un discours, qui est effectivement de la pure castagne. Et en plus... pour finir sur mettre de la nuance sur les réseaux sociaux, on peut aussi parfaitement parler de manière nuancée sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est le plus gros reproche que je ferais à Birnbaum et à plein d'autres gens. C'est ce propos, ah oui, sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de nuance, etc. Mais en fait, c'est parce que c'est là où vous regardez, quoi. Pourquoi est-ce que vous accordez de l'importance, voilà, aux gens qui se castagnent et tout. Il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et là, vous êtes en gros les seuls responsables à accorder ou non de l'attention à ça, quoi.
Oui, et puis je pense qu'il faut accepter la castagne dans les débats. Si on ne l'accepte pas,
aussi, oui, bien sûr.
Moi, je l'ai souvent dit, mais je ne suis pas sur Twitter parce que justement, je ne sais pas discuter comme ça. Et j'ai besoin aussi de voir les gens ou de les entendre vraiment quand je discute avec eux. Donc ça ne me correspond pas du tout. Après, voilà, il y a des gens qui trouvent leur compte. Mais c'est vrai qu'il y a une focalisation de la sphère médiatique sur Twitter parce que, comme il le dit d'ailleurs lui-même d'une façon assez naïve au début du livre, au début il trouvait Twitter très sympa, il pouvait discuter avec des gens, c'était fabuleux, et puis bon, au bout d'un moment, les gens ont commencé à devenir agressifs.
Ouais, à critiquer, ouais. Beaucoup de journalistes ont ce discours-là, c'est genre « Ah, c'était super Twitter, je pouvais en gros dire ce que je voulais dire, et puis un jour on m'a critiqué ».
Oui, c'est ça. Et puis surtout, je pense qu'il faudrait distinguer le fond et la forme, même si c'est artificiel. C'est que la radicalité dans le fond, il faut l'accepter. Je pense qu'un des problèmes, et c'est ce que je voulais dire aussi en parlant de la bêtise, c'est la radicalité dans la forme. C'est que bon, quand les gens sont impolis en disant des choses stupides et qui sont pas bien écrites avec des fautes partout, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un débat civilisé. Mais si on regarde notre histoire intellectuelle, on voit des tas de débats entre des idées très 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 opposées, hein,
bien sûr.
Mais c'est vrai, entre des gens qui se parlaient de façon à peu près courtoise, qui se disaient du monsieur, madame, et voilà, j'ai l'impression que ça rejoint aussi la difficulté à manier la langue. C'est-à-dire que si on manie bien la langue et qu'on sait dire des choses assez perçantes, on n'a pas besoin de crier ou d'insulter les gens, on peut dire les choses très calmement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que là où on manque de nuances pour le coup, c'est dans l'utilisation des mots. On ne sait pas très très bien parler de façon précise. Enfin, moi, ça me frappe quand je tombe par hasard sur d'anciens numéros de, je ne sais pas, La Marche du siècle, qui était cette émission animée par Jean-Marie Cavada, sur France 3, il me semble, ou encore, évidemment, Apostrophe ou Bouillon de culture. On voit des gens qui s'expriment, oui, de façon tout à fait intéressante, posée, réfléchie, voilà. Et ça... Clairement, on l'a quand même un peu perdu. Je ne veux pas faire la décliniste de service, mais on l'a un peu perdu. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les réseaux sociaux me désolent.
je le constate aussi, cet appauvrissement du langage dans le discours médiatique. Et je suis totalement d'accord avec toi que cet appauvrissement signale un appauvrissement de la pensée. Mais en fait, juste pour finir là-dessus, on accorde en tout cas une attention démesurée aux individus en fait qui sont le moins adaptés à la vie intellectuelle d'une démocratie libérale, donc un système qui respecte le pluralisme, qui recherche la contradiction. Et en fait aujourd'hui, on accorde une attention démesurée à ceux qui crient le plus fort, qui entendent dissoudre le débat par l'anathème, qui pensent que la marche du monde est un jeu à somme nulle. Et donc qui estiment que tous les moyens sont permis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange profondément et qui est, à mon sens, extrêmement toxique. Et justement, pas seulement pour le débat, aussi pour la pensée.
Mais là, pour le coup, on peut dire que les réseaux sociaux ont leur responsabilité parce que ces gens n'auraient pas du tout l'écho qu'ils ont sans ces médias... d'ailleurs, sociaux, ça me fait toujours rire. J'ai toujours envie de les appeler médias asociaux parce que j'ai l'impression qu'ils font ressortir le pire. Mais bon, en même temps, la société, c'est le pire et le meilleur.
Mais, ouais. Non, mais je suis d'accord aussi.
Et, bon, en tout cas, là oui, moi, je te rejoins là-dessus. Et il y a une sorte de spirale, en fait, qui se crée. Enfin, et en effet, un écho disproportionné qui peut être donné à certaines personnes. Et puis
ouais, c'est super pervers parce que c'est à la fois une spirale du silence et une spirale de l'hystérie. En fait c'est ouais. Plus les gens crient et plus d'autres se taisent, quoi.
Tout à fait. Et puis en plus, le problème, c'est qu'on est les réseaux sociaux, en effet, à mon avis, sont enfin, on leur accorde, comme tu le dis, beaucoup trop d'importance. Mais d'un autre côté, ce qui s'y passe peut avoir des conséquences tout à fait réelles dans la vie réelle des gens. Donc on est toujours un peu coincé entre le fait de vouloir ignorer ce qui se passe et en même temps le fait de prendre en compte leurs conséquences. Et ça, c'est compliqué parce que ça s'entretient, en fait. Plus on y fait attention, plus les dommages qu'ils causent peuvent être réels. Donc, enfin, en tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge.
Ben c'est là peut-être que justement, dans ce cas-là, il faudrait adopter une position nuancée.
Tout à fait. Ce qui nous fait une excellente transition.
Voilà, une excellente conclusion.
Oui, conclusion de transition vers nos contrariétés qui, elles, ne sont pas du tout nuancées. Et je vais commencer par la mienne très rapidement. Vas-y. En fait, la mienne, c'est plutôt une espèce de désolation face à l'état de la France et de l'état du Covid en France et l'échec total de la campagne de vaccination dont nous avons déjà parlé dans ce podcast. On est reparti pour une sorte de nouveau confinement, enfin plutôt vous êtes reparti parce que moi je suis à Londres. Et alors la Grande-Bretagne qui était la risée de l'Europe il y a un an quand l'épidémie... a démarré. Et c'est vrai que la Grande-Bretagne a extrêmement mal géré le début de l'épidémie. Le confinement a été trop tardif. Les mesures ont été d'abord un petit peu timides. Et puis après, elles ont été extrêmes. Enfin bref, on est un peu passé par tous les stades. Mais la campagne de vaccination est une véritable réussite. Donc j'ai un voisin qui a 41 ans, qui s'est fait vacciner il y a 3 semaines déjà, et qui n'a pas de conditions médicales particulières qui devait faire qu'il soit prioritaire. Donc voilà, il est juste sur la liste. Je me demande parfois si je ne serais pas vaccinée avant ma mère. Et voilà, enfin tout ça est à la fois très bien pour moi, tant mieux. Mais en même temps, je regarde la France avec une forme de, de tristesse. Et puis, je n'arrête pas de penser aussi au fait qu'au début de l'épidémie, notre président de la République, Emmanuel Macron, nous a dit que nous étions en guerre. Eh bien, je me dis que si nous étions vraiment en guerre, aujourd'hui, nous serions donc annexés, occupés ou quoi d'autre.
Ben, c'est un peu l'histoire de la France dans les guerres, dans les guerres récentes, non ?
Oh là là, en fait.
Pour continuer un peu sur la ligne un peu scientifique et médicale, en tout cas, moi, ma contrariété concerne ce qui se passe au JAMA. Donc le JAMA, c'est je vais encore avec mon merveilleux accent anglais, le Journal of the American Medical Association.
Bravo.
Donc c'est bravo. Donc c'est ce qui s'y passe depuis fin mars. Donc, Howard Bochner, qui était rédacteur en chef, a été placé en congé administratif donc le 25 mars, suite à une controverse qui a été suscitée par un podcast sur le racisme en médecine. Et ce podcast était animé par le rédacteur en chef adjoint de la revue, qui s'appelle Ed Livingstone. Donc, c'est très drôle, c'est Dr. Livingstone, moi, ça me fait rire, qui est chirurgien et spécialiste notamment de chirurgie bariatrique. Donc le podcast a été retiré, c'est impossible d'y accéder, donc je m'excuse auprès de mes auditeurs que j'ai mal fait mon travail parce que je n'ai pas écouté le podcast, mais c'est impossible, il n'existe plus, il a été effacé de la surface de la Terre. Donc Livingstone a démissionné, Bochner a publié des excuses en ligne, donc ces excuses là je les cite, les commentaires faits dans le podcast étaient inexacts, offensants, blessants et incompatibles avec les normes du JAMA. Rebelote sur James Madara, qui est directeur de l'Association médicale américaine, donc qui est l'association qui publie la revue. Lui aussi, il s'est platement excusé. Donc, tout le monde a peur. Qu'est-ce qui s'est passé d'affreux dans ce podcast? Donc, le podcast a été publié, est sorti le 24 février. Et il a été présenté dans un tweet, hein, encore une fois, on parle de Twitter, comme « Aucun médecin n'est raciste. Alors, comment peut-il y avoir un racisme structurel dans les soins de santé ?» Et le fameux Dr. Livingstone, dans ce podcast, donc c'est la seule citation que j'ai réussi à retrouver du podcast qui est visuellement et a priori est authentique, donc il a dit « Le racisme structurel est un terme malheureux. Personnellement, je pense que retirer le racisme de la conversation serait utile. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de médecins, sont offensés par l'idée que nous soyons racistes. » Donc dans le podcast, il était en discussion avec Mitchell Katz, qui est président du New York Health and Hospitals et qui est rédacteur en chef, ou lui aussi rédacteur en chef adjoint du JAMA, mais spécialisé dans la médecine interne. Donc Katz n'était pas d'accord. Il disait que le racisme existait, devait être éliminé. Livingstone disait que les problèmes étaient davantage liés au statut économique au racisme. Voilà une discussion totalement normale. Mais non, en fait, il y a des gens qui se sont considérés extrêmement, comme disait Bochner, offensés et blessés par ses propos. Ils ont sorti une pétition sur change.org. Donc la pétition a été organisée par l'Institut pour l'antiracisme dans la médecine. A été signée au moment de la démission et de la mise à pied des deux rédacteurs en chef et rédacteurs en chef adjoints. A été signée par 7000 personnes. Donc la pétition demandait une enquête sur Bochner, une restructuration de l'équipe éditoriale du JAMA et la programmation de réunions publiques avec, je cite, « des patients du personnel de santé et des alliés noirs, indigènes et de couleur ». Donc ça a fait l'objet le 25 mars d'un article dans le New York Times où donc la journaliste Apurva Mondavili citait des médecins qui étaient à l'origine de la pétition. Donc il y en a une qui s'appelle donc le docteur Brittany James, qui est noire, qui exerce dans le South Side de Chicago et qui est une des initiatrices de la pétition. Elle dit « Ce n'est pas seulement que ce podcast est problématique, c'est qu'il y a une longue histoire documentée de racisme institutionnel au JAMA ». Donc il y a une autre docteur, elle aussi femme et noire, qui est médecin urgentiste à New York, qui s'appelle Uche Blackstock. Elle dit « Ce podcast n'aurait jamais dû avoir lieu, ce tweet n'aurait jamais dû avoir lieu ». Le fait que ce podcast ait été conçu, enregistré et posté est inadmissible. Et elle ajoute, c'est ça la cerise sur le gâteau, je pense que cela a causé une quantité incalculable de souffrance et de traumatisme aux médecins et aux patients noirs, et je pense qu'il faudra beaucoup de temps à la revue pour guérir cette douleur. Et donc là, en fait, on en revient à ce que je disais plus haut, on est en fait face à des gens qui sont, à mon sens, proprement inadaptés à la vie sociale et la discussion que demande en général une démocratie libérale et en particulier le débat scientifique, parce que on peut considérer que la notion du racisme structurel ou institutionnel, comme on dit, est un tabou, mais en fait, si les scientifiques ne peuvent pas titiller les tabous, alors qui peut le faire, quoi ?
Eh bien, personne, parce que c'est le ticket d'entrée dans la discussion, vraisemblablement. Si tu n'es pas d'accord avec le concept, tu ne peux pas entrer dans la discussion. Moi, je trouve que c'est atterrant. J'ai une phrase de Jean-François Revel qui me vient à l'esprit. Alors, peut-être que je l'ai déjà citée. Excusez-moi si c'est le cas. Mais c'est quand il écrit « L'idéologie, c'est ce qu'il pense à votre place ». Et on est vraiment là aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens ne pensent pas. Ils ont des concepts qui viennent en grappe et qui...
Bien sûr.
Et qui s'associent les uns aux autres tout seuls. Le réel n'existe plus. Enfin, c'est complètement délirant. Voilà, donc sur ce, Peggy, encore une édition très gaie, hein, des contrariantes.
J'aimerais finir sur la question de la nuance. Moi, il y a une phrase, c'est pas du tout intellectuel. Enfin, si, c'est quand même un peu intellectuel. C'est une phrase de Jean-Jacques Goldman, dans Né en 17 à la Neustadt, où il dit « Et qu'on nous épargne, à toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir choisi un camp ».
Pas mal. Bon, bah, alors, si on fait des concours de citations, j'en ai une, là. Alors, c'est celle de Nietzsche qui dit « Malheur à moi, je suis nuance ». Et ça, c'est un peu énigmatique, hein, comme souvent chez Nietzsche, mais ça fait penser. Voilà, donc sur ce, hein, on va passer à la deuxième partie. Nous accueillons aujourd'hui le chercheur en informatique, Frédéric Pro. Frédéric Pro, bonjour.
Bonjour.
Et merci de rejoindre les contrariantes aujourd'hui. Je laisse Peggy vous présenter.
Frédéric Pro, vous êtes maître de conférence en informatique à l'Université Grenoble-Alpes, au sein du LIG, donc, qui veut tout simplement dire le Laboratoire d'informatique de Grenoble. Parmi vos spécialités, on compte la théorie des langages de programmation, la confidentialité et l'intelligence artificielle. C'est sur ce sujet que vous aviez signé en mai 2018 une tribune dans Le Point où vous jugiez très durement le rapport de Cédric Villani, qui était à l'époque député En Marche de l'Essonne, un rapport qui avait été mandaté par le Premier ministre, là encore de l'époque, Édouard Philippe, et qui entendait, entre guillemets, donner un sens à l'intelligence artificielle. Et en vous lisant, en fait, on comprenait que ce rapport n'en avait pas beaucoup de sens, car vous écriviez, là je vous cite, « Ce rapport laisse l'impression de mettre la charrue avant les bœufs en discutant avant même qu'elle existe de ses limites éthiques et de ce que devrait être l'intelligence artificielle. Il est vrai que la France et l'Europe sont en retard, mais ce n'est pas un rapport qui va changer la donne, surtout dans ce domaine où il est très difficile de penser les implications sociales en amont. L'histoire nous a montré qu'elles sont largement imprévisibles, il serait dangereux de se brider avant même d'avoir commencé à faire. » Alors c'est un texte qui m'a beaucoup plu, car même si je n'y connais pas grand-chose et même je n'ai pas peur de le dire, absolument rien en intelligence artificielle, j'y ai trouvé dans cette formule, donc se brider avant même d'avoir commencé à faire, une sorte de résumé parfait en fait du mal français. Donc un mal qui, moi je serais peut-être un peu plus métaphorique que vous, nous fait d'abord poser les sens interdits avant de savoir où va passer la route. Et outre cette tribune, les lecteurs du Point vous connaissent pour la bonne vingtaine d'articles que vous avez signés dans Phébé, où vous explorez les interactions entre technologies de l'information et de la communication et la société en général. Et donc ça, c'est une thématique à laquelle vous consacrez vous aussi un podcast qui s'appelle le TikTok du LIG, qui compte à l'heure où nous enregistrons 20 épisodes d'interviews avec de très grosses pointures de la culture numérique, comme Alexandra Elbakian du projet C-Hub, donc, hein, qui permet d'accéder librement à la littérature scientifique. Et donc, c'est un podcast dont nous mettrons bien sûr l'adresse en lien pour nos auditeurs. Mais pour revenir au nôtre de podcast, aujourd'hui, nous vous invitons pour aborder le thème qui est très large de la liberté d'expression à l'ère des GAFA. Et c'est un sujet sur lequel vous avez là aussi un œil très contrariant. Et pour que nos auditeurs en aient donc l'oreille et le cœur net, je laisse Laetitia débuter notre entretien par une première question.
Alors Frédéric Pro, en janvier dernier, l'ancien président américain Donald Trump était banni de Twitter et de Facebook. Le réseau social Parler, associé à l'alt-right et soupçonné d'avoir servi de relais aux assaillants du Capitole, se voyait également supprimé de certaines App Store, Google et Apple, et de son hébergeur Amazon. Alors on peut comprendre la nécessité d'ordre public qu'il y a à suspendre ses comptes, et d'ailleurs Peggy et moi y avons consacré un podcast, mais d'un autre côté, aujourd'hui des entreprises privées monopolistiques contrôlent l'expression publique sans aucun contrôle démocratique. Alors, pour commencer, je vais vous demander ce que vous pensez de cette situation.
Alors, cette situation est très compliquée et elle illustre un peu le passage dont Peggy a fait la lecture tout à l'heure, c'est-à-dire que les nouvelles manières de communiquer ont changé le paysage d'une telle manière que le dialogue qu'on a aujourd'hui sur la liberté d'expression est très daté et presque plus en phase avec ce qui se passe réellement. Alors, par rapport à cette situation-là, on peut voir plusieurs choses. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une gradation. C'est d'abord Donald Trump a été viré de son compte, puis l'application concurrente a été virée des stores de Apple et de Google, puis les ordinateurs sur lesquels elle tournait, qui appartiennent à Amazon, ont décidé de ne plus l'héberger. Enfin, on voit bien qu'il y a une espèce de gradation comme ça. C'est si vous voulez pas. Si on ne veut pas écouter ce que vous dites, allez parler ailleurs. Quand vous parlez ailleurs, on ferme l'endroit où vous allez parler et après on rase même le bâtiment dans lequel vous avez discuté. Et pourquoi ça va plus loin que la discussion habituelle sur la liberté d'expression? C'est parce que, alors, pour faire vite, les technologies de l'information, à l'époque, avant Internet, quand on voulait répandre une information, il fallait l'imprimer ou la diffuser par radio. Ce qui demande une certaine infrastructure, ce qui coûte de l'argent, etc. Et aujourd'hui, là, en ce moment, je suis en train de vous parler, je pourrais très bien être en train d'écrire un tweet qui, authentiquement, 2 secondes après, pourrait être lu à l'autre bout de la Terre, aussi bien au Kazakhstan qu'en Argentine. Et moi, je suis une simple personne, et n'importe qui peut faire la même chose que moi. Et donc ça a changé énormément la donne. Donc il y a déjà cet aspect purement technique de maintenant, tout le monde peut parler avec tout le monde. De manière instantanée, et c'est pas une image, c'est pour de vrai, ce qui n'était absolument mécaniquement ou physiquement pas possible, disons, avant les années 2000, même 2010. Il y a ce premier aspect, et en fait, la conversation sur la liberté d'expression, elle en est restée un peu à l'époque de. Alors je caricature, bien sûr, mais elle en est un peu restée à l'époque de l'imprimerie, où pour empêcher quelqu'un de parler, il suffisait juste de ne pas l'imprimer. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué parce que c'est ce que je viens de dire. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur un réseau, c'est très difficile à gérer. Et d'un autre côté, une fois que la parole a été publiée, c'est très dur de l'effacer aussi. Et ce qui s'est passé avec Trump et tout ce qui s'est passé dans la suite des événements du Capitole, et ben ça montre ce décalage parce que peut-être qu'il fallait. Je ne vais pas rentrer dans le fond de l'affaire, mais peut-être qu'il fallait effectivement que Trump n'excite pas les gens pour que ça aille plus loin, etc. Donc on peut comprendre ça. La manière dont ça s'est déroulé, en fait, elle est plus loin, parce que Trump, en ayant été excommunié de Twitter, c'est aussi tous les tweets légitimes qu'il a fait avant qui ont disparu. Et ça, c'est différent que de dire vous n'avez plus le droit de vous exprimer pendant un certain temps, le temps que. Les choses se calment, ce qui peut être compréhensible, mais complètement effacer tous ses tweets. Alors, c'est pas que je sois son supporter ou quoi que ce soit, mais il a quand même été président et il s'est quand même servi de Twitter pour avoir des résultats diplomatiques, je sais pas, quand il discutait avec la Corée du Nord, etc., sur des sujets très sérieux. Et donc, on peut quand même argumenter du fait que ces tweets appartiennent. Alors, ils n'ont pas été disparus, hein, parce qu'il y a la librairie du Congrès qui les enregistre automatiquement. Mais on voit bien que empêcher quelqu'un de s'exprimer sur Twitter, c'est plus que ça, puisque en fait, ça efface l'historique de tout ce qu'il a dit, et qui, a priori, était légitime. Donc ça pose ce premier problème. Et le problème, pourquoi je vous avais parlé de l'imprimerie, etc., avant, c'est parce que c'est lié à cette idée qu'on a de la liberté d'expression, c'est que soit quelqu'un imprime, et puis jusqu'au moment où alors, je sais pas, on décide que ce qu'il a dit ne doit pas être imprimé. Mais en fait, on va dire que la manière de censurer le discours ou de gérer la liberté d'expression, on peut le dire d'une manière ou d'une autre, suivant comment on l'entend, était très brutale. C'était soit on vous publie, soit vous passez à la télévision, soit vous passez pas à la télévision. Soit votre livre est publié, soit il n'est pas publié. Mais en fait, aujourd'hui, on peut faire des choses beaucoup plus subtiles que supprimer tous les tweets de Trump. Et vraisemblablement, ça va plus que vraisemblablement, les réseaux sociaux utilisent déjà ces possibilités. C'est ce qu'on appelle le shadow banning, c'est-à-dire c'est pas parce que moi j'écris un tweet que n'importe qui peut le voir. D'une certaine manière, ce tweet, il est géré par la plateforme. Alors, je parle toujours de Twitter, mais vous pouvez instancier ça sur Facebook, Instagram, TikTok, le réseau social de votre préférence. Et ce réseau social peut choisir ou pas de le présenter à 100 000 personnes, une personne, personne. Et donc, on voit bien qu'on peut arriver à une gradation de la liberté d'expression. C'est-à-dire, je peux déjà couper la parole à quelqu'un pendant juste 12 heures et pas dire à tout jamais. Je ne suis pas obligé de supprimer tout ce qu'il a écrit jusqu'à maintenant. Et même, je ne suis pas forcément obligé d'effacer ce qu'il a dit. Je peut-être que simplement ne pas le présenter en tête de gondole, on va dire ça comme ça, ça peut être une action suffisante. Et ce genre de riposte graduée, à mon avis, n'est pas encore bien passé dans la culture générale, où on a une approche qui est très tranchée. C'est soit vous avez le droit de vous exprimer, soit tout ce que vous avez dit disparaît et on fait comme si ça n'existait pas.
Sur cette question du shadow banning, si je me trompe pas, en fait, les utilisateurs ne savent pas en fait qu'ils ont été shadow bannés, quoi.
Oui, c'est vrai que pour le moment, c'est vu d'une manière plutôt négative parce que c'est très asymétrique. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, et c'est un autre problème aussi, les réseaux sociaux font plusieurs choses en même temps et ça a un impact sur la discussion de la liberté d'expression. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, quel est leur métier en fait? Parce que je me suis posé cette question fondamentale en me disant, mais ok, Internet, ça existe depuis les années 90, voire même depuis les années 70, mais c'était difficile à utiliser et c'était limité aux académiques avant. Mais donc, quelle est la différence entre une communication, on va dire, quand vous allez sur Internet et que, je sais pas, vous allez voir la page du Monde, vous allez sur Wikipédia regarder quel est le poids de l'atome. Et quelle est la différence entre une communication de ce type-là et la communication type réseau social? J'ai l'impression que la différence fondamentale est la suivante, c'est que ce qui vous intéresse dans un réseau social, c'est de savoir qui a écrit l'information, alors que qui a écrit l'information de combien pèse l'atome, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'information soit correcte. Donc il y a deux choses importantes. Il y a qui a publié l'information et quand est-ce qu'il l'a publié. Donc si on reprend l'exemple de Trump, par exemple, tout le monde savait qu'il allait à un moment reconnaître qu'il avait perdu l'élection présidentielle. Donc en gros, son message qui allait être « je reconnais que le prochain président est Joe Biden », tout le monde le connaît, mais la seule chose qui est intéressante, c'est quand est-ce qu'il va le publier, dans quel contexte. Et donc, il me semble que la communication des réseaux sociaux, c'est cette information différente d'une information pure, c'est ce qui vous intéresse, c'est qui l'a publié et quand est-ce qu'elle a été publiée. Donc il y a cet aspect-là, et donc les réseaux sociaux, eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils identifient les gens, et puis il y a des milliards de gens qui discutent, et en gros, leur métier, c'est de vous présenter qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Et c'est pas un métier facile. C'est vraiment difficile parce que, et bien vous imaginez Twitter, il y a 500 millions de personnes qui écrivent des tweets en même temps, et qu'est-ce qu'on va présenter à Frédéric Pro qui va pouvoir l'intéresser? Alors, ça peut être pour des raisons mercantiles, parce qu'ils veulent que je reste plus longtemps sur le site pour pouvoir me vendre des publicités. Mais le problème reste, c'est qu'il y a énormément d'informations qui est générée, et on veut vous présenter celle qui va plus vous plaire pour telle ou telle raison. Ok, ça c'est leur métier principal, mais en fait, ils ont un autre métier qui est un peu masqué, c'est qu'ils hébergent vos données. C'est quand vous tapez un tweet, le tweet que vous venez de taper, il n'est plus enregistré sur votre ordinateur, mais il est enregistré sur le serveur de Twitter. Et ça brouille un peu la discussion sur la liberté d'expression, parce que quand ils vous bannissent, en fait, ils disent « Ah, mais les tweets sont sur nos serveurs, ils nous appartiennent. » Et en fait, ce n'est pas très clair de savoir à qui appartient la parole une fois qu'elle a été proférée. Et donc, vous avez ces défenseurs des réseaux sociaux qui disent « mais ce sont des compagnies privées, ils peuvent faire ce qu'ils veulent », entre guillemets, en disant que « oui, mais de toute façon, c'est eux qui hébergent vos données et c'est eux qui les diffusent ». Alors c'est un peu rapide parce que si Twitter ça marche, c'est parce que Internet ça marche, et Internet c'est une somme de technologies qui ne sont pas dues qu'à Twitter. C'est un peu comme si vous étiez sur l'autoroute et que vous êtes, je sais pas moi, une station essence sur l'autoroute et que vous décidez que tout ce qui passe par chez vous, vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est pas vrai. Dans la vraie vie, c'est pas vous qui avez construit l'autoroute. Et donc, on vous donne une concession et on vous dit, vous avez telle et telle chose à respecter. Et là, j'ai l'impression que dans ce discours sur la liberté d'expression, on confond un peu les choses et on dit, mais oui, mais vu du fait, étant donné le fait qu'ils hébergent vos données, ils ont le droit de les effacer, etc. Et il me semble que un point important, ça serait de faire cette distinction, ça serait de dire, ok, le travail des plateformes de réseaux sociaux, c'est de vous présenter le contenu qui va vous plaire, et c'est un métier à plein temps. Et puis, il y a un autre problème qui est celui de l'hébergement des données. Et je sais pas, là on a fait la séparation entre l'Église et l'État, et peut-être qu'il faudrait faire la séparation entre l'hébergement des données et la présentation des données. Pour reprendre une autre image, quand vous utilisez un moteur de recherche sur Internet, Google Search, Google n'a pas la possibilité de supprimer votre page web. Par contre, il a la possibilité de vous mettre en page 47 où personne ne vous verra jamais. Et donc on pourrait imaginer qu'effectivement, bannir quelqu'un, ça revient à le mettre en page 47. Mais ce n'est pas pareil quand même que d'effacer ce que la personne a écrit, ce qui se passe actuellement. Où actuellement c'est le gros coup de marteau, et non seulement vous n'avez plus le droit de parler sur le réseau social, mais tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant disparaît, etc. Et donc ça pourrait aussi introduire une souplesse dans la gestion de la liberté d'expression.
Alors, vous parlez de données effacées. Sont-elles vraiment effacées? Tous les posts qui disparaissent quand un compte est supprimé, est-ce qu'ils disparaissent aussi ou est-ce qu'ils sont conservés quelque part? Et si oui, comment?
Alors là, je ne sais pas, j'imagine que ça doit dépendre des plateformes de réseaux sociaux. Ils vous disent qu'ils effacent ce que vous avez dit. Je ne sais pas en fait. Et il faut lire les termes, les fameux terms of service, qui changent toutes les 3 semaines. Et puis, il faut juste leur faire confiance. Ça, c'est aussi une autre idée que je pense la société doit commencer à accepter. Alors, ça vient de loin. Ça vient de la distinction qu'on peut faire entre le monde réel des objets et le monde des idées, et les deux mondes n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, pour faire très vite, si on vous vole un objet, si on vous vole votre voiture, vous pouvez la récupérer. Mais si on vous vole un secret, vous pouvez pas récupérer le secret, ça n'a juste pas de sens. De la même manière, je peux détruire une voiture, mais je peux pas détruire une idée. Et donc, on peut faire une liste comme ça, hein, on peut faire 3 pages de différence entre le monde réel et le monde des idées. Et ce qui se passe, c'est que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont presque, alors c'est un peu paradoxal, mais rendu réel le monde des idées. Parce que avant, quand vous aviez une conversation, il n'y avait que les gens présents qui pouvaient l'écouter. Maintenant, parmi les gens présents, il y en a un qui peut enregistrer la conversation, l'envoyer sur un réseau social, et cette conversation acquiert presque les caractéristiques d'une idée. C'est-à-dire, elles ne vous appartiennent plus, elles sont plus situées en un lieu spécifique, vous êtes incapable de la détruire, etc. Et donc, il faut imaginer que quand vous publiez quelque chose, c'est comme une idée, et que vous ne pouvez pas le détruire. Et donc, cette idée de ces données vous appartiennent parce que vous avez écrit le tweet, c'est un peu étrange, et à mon avis, sur le long terme, il faut l'oublier, et il faut plutôt imaginer que tout ce que vous avez publié, eh ben, sera écrit à tout jamais quelque part. Alors pour le moment, il y a beaucoup de règles législatives sur le droit à l'oubli, etc. On peut croire les gens ou pas qu'ils aient effacé vos données des fichiers, mais vous n'avez aucun moyen d'être sûr que vos données ont été effacées. Parce que c'est ce que je disais, c'est que c'est comme une idée. À la limite, quand vous faites une saisie. Quand vous saisissez quelque chose, enfin j'imagine la police saisit de la drogue, elle peut détruire la drogue et on peut, comment dire, constater que la chose a été détruite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'effacer des données? Dans un monde où on peut partager les données de manière aussi facile, c'est ces fameux scandales où vous avez les photos de telle célébrité qui est dans une position compromettante et qui veut les supprimer du réseau, c'est juste impossible. C'est vous pouvez les supprimer à chaque fois qu'elles apparaissent sur un serveur, mais jusqu'au jour où ça arrive à un serveur dans je sais pas quel pays où vous n'avez aucun contrôle. Et voilà, c'est. Donc, je ne sais pas si on peut croire déjà les plateformes de réseaux sociaux quand ils disent qu'ils suppriment vos données. Et de toute façon, il faut plutôt agir comme si on ne pouvait pas supprimer les données. C'est plutôt comme ça que je verrais.
Et inversement, en fait, à qui appartiennent les propos que nous écrivons dans, je sais pas, dans un mail ou sur les réseaux sociaux? Et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas justement les conserver, puisque nous en sommes les auteurs?
Alors ça, je pense que ça va évoluer parce qu'il y a déjà des propositions pour décentraliser l'hébergement des fichiers. Et quand on écrit un tweet, c'est comme si on écrivait une lettre au monde entier. En fait, on peut le voir comme ça, on peut dire que le mail ou le courrier, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans un courrier, effectivement, il y a l'information et puis il y a qui vous l'a envoyé et quand. Donc vous avez ces points essentiels. Et à la limite, vous devez imaginer, à mon avis, la bonne manière de l'imaginer, c'est que quand vous écrivez un tweet, c'est comme quand vous écrivez une lettre à quelqu'un. Cette lettre, elle est partie, elle n'est plus chez vous, vous n'avez plus de contrôle dessus. Et donc, j'ai l'impression que ça ne vous appartient plus. Alors, et ça rend logique le fait de dire que les tweets ne sont pas éditables, etc. Et même si vous pouvez effacer un tweet, quelqu'un a pu en faire une capture d'écran et puis il vous le ressort plus tard, mais à ce moment-là, vous n'avez aucun contrôle si ce capture d'écran il était modifié, etc. Mais je pense que il faut se départir de l'idée que c'est comme un objet qui vous appartient. C'est vous faites une. Alors, on est un peu grandiloquent. Vous faites une déclaration au monde et puis cette déclaration, elle est juste enregistrée. Et vous n'avez pas de contrôle dessus une fois que vous l'avez faite. Alors, ce sur quoi vous avez un contrôle, c'est sur votre identité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'écrire sous votre vrai nom, qu'on pourrait appeler votre nom, numéro de sécurité sociale, qui est le nom par lequel l'État vous identifie. Et je pense que là aussi, c'est une conversation qui est liée à celle de la liberté d'expression. Alors moi, j'ai une position qui est très minoritaire. Disons, pour être extrémiste, j'aurais tendance à dire qu'il devrait être interdit aux gens mineurs d'écrire sous leur vrai nom quoi que ce soit sur Internet. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent, vous n'avez pas le droit d'écrire si vous n'utilisez pas votre vrai nom, mais je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Parce que, étant donné le fait que quand vous écrivez quelque chose, ça va rester à tout jamais, et ben oui, des fois vous êtes en train de rigoler parce que vous discutez avec des amis, d'autres fois vous êtes en train de parler de science, d'autres fois vous êtes en train de parler de politique, et toutes ces distinctions de votre identité sociale qui existait avant simplement pour des raisons mécaniques, parce que quand vous êtes dans votre club de sport, vous n'êtes pas au bar, et quand vous êtes au bar, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, etc. C'est des lieux différents, et comme ce que vous dites dans un lieu ne se transporte pas dans un autre lieu, cette protection, elle était déjà, on va dire, mécaniquement réalisée. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est ce que je vous disais. Quand vous dites quelque chose sur Internet, ça devient comme une idée, et il faut imaginer que le monde entier, et c'est pas une manière de parler, c'est le monde entier va y avoir accès, et à tout jamais. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc la seule protection qui reste, c'est d'avoir plusieurs identités. Donc c'est ce qu'on appelle les pseudonymes. Et voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs pseudonymes, et après, c'est quelque chose à apprendre aussi culturellement, à gérer ses identités. Alors, avoir des pseudonymes, ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à des personnes qui pourraient raconter n'importe quoi. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que si vous parlez sous un pseudonyme, quelle est la valeur qu'on va accorder à votre parole? Et la valeur qu'on va accorder à votre parole, c'est la valeur qui est accordée à la réputation du pseudonyme. Et comment est-ce qu'on va accorder une réputation à un pseudonyme? Et bien, on va regarder l'ensemble de ce que ce pseudonyme a publié. Et ce pseudonyme ne peut pas changer ce qui a été publié, parce que c'est ce que je disais avant, on ne peut pas supprimer ce qui a été publié. Donc en même temps, on a ce garde-fou qui est, ok, si je raconte n'importe quoi, ou si je fais partie d'une meute qui se moque de quelqu'un, etc., eh bien ça va être accroché à mon pseudonyme, et puis les gens vont voir, et eh ben oui, lui c'est quelqu'un qui est pas, qui est un troll, etc., qui discute pas de manière ouverte, Alors ça, c'est du point de vue de la personne qui parlerait mal, on va dire, et puis du point de vue du côté de la victime. Si vous recevez des insultes de la part d'un pseudonyme qui a zéro follower et qui a aucun poids, il faut aussi le vivre d'une manière plus tranquille, quoi. Si vous dites, voilà, je me fais incendier par un espèce de robot, c'est juste du bruit de fond, quoi. Et donc vous avez ce jeu de, par la réputation, vous allez acquérir le fait que votre voix ait une importance, et puis si vous dites n'importe quoi, vous allez perdre de l'importance, et donc en fait, ça va diminuer le mal que vous pourriez faire.
pour continuer sur la question des GAFA, je voulais aborder l'enjeu idéologique, parce qu'on les accuse souvent d'être orientés, en gros, hein, d'être plutôt à gauche, en tout cas progressistes, ce qui pourrait poser un problème aussi pour la circulation des idées sur le net. Et je voulais aussi faire une analogie avec le papier. Il est quand même très rare que des imprimeurs et des diffuseurs refusent d'imprimer, de diffuser des livres pour des raisons idéologiques. L'éditeur, au contraire, évidemment, le peut. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression qu'ils jouent ce triple rôle. Ils sont à la fois des imprimeurs, des diffuseurs et des éditeurs. Et donc, ils peuvent faire des choix qui ont des conséquences beaucoup plus lourdes hein, que s'ils n'étaient que de simples éditeurs. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison avec le monde du papier? Et est-ce que ça veut dire aussi que la révolution numérique, elle est bien plus forte finalement que la révolution de l'imprimerie?
Alors moi, je pense que la révolution numérique est largement plus forte que la révolution de l'imprimerie, qui a déjà conduit à la guerre de 30 ans, à la Westphalie, au protestantisme, c'est-à-dire que ça a complètement changé la face du monde. Juste le fait de pouvoir imprimer, diffuser la Bible et que les gens la lisent, on va dire, en direct plutôt que filtrée par un clergé. Donc ça, c'était juste une... Alors, il n'y avait pas que ça, bien sûr, mais c'est quand même un facteur majeur de l'évolution vers la modernité, de pouvoir diffuser le savoir et que les gens y aient accès en parallèle. J'ai l'impression que les industries numériques... Enfin, la numérisation ou la virtualisation, je ne sais pas comment on peut dire, ou la digitalisation, c'est encore un cran au-dessus... parce que on change de culture, c'est-à-dire que voilà, pour aller très vite, pendant presque toute l'existence de l'humanité, ce qui existait, c'était la culture orale, et donc une des caractéristiques de l'être humain, c'est qu'il accumule de l'information au cours des générations, ce que font pas les animaux, c'est-à-dire qu'un ornithorynque il y a 200 000 ans, c'est le même qu'un ornithorynque aujourd'hui, mais pas chez les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on accumule l'information. Et la majeure partie du temps, on a accumulé l'information de manière orale. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un chercheur en psychologie évolutive pour voir que la manière dont sont filtrées les informations, c'est les gens se racontent des histoires, et puis les histoires les plus intéressantes surnagent. Donc on a une espèce de filtre comme ça qui se fait au cours du temps, qui est un filtre qui est lié à la culture orale. Ça change quand on a la culture écrite. Donc quand on se met à écrire, au début écrire c'était dur, là, les gens ils gravaient des morceaux de pierre, donc avant d'écrire un morceau, n'importe quoi, il faut être sûr que ce qu'on va écrire c'est intelligent, et donc ça met en place la fonction éditoriale, c'est-à-dire qu'avant d'écrire, on se pose, on réfléchit, on se réunit, et puis une fois qu'on est sûr que ce qu'on va écrire est important, on le couche sur le papier, et donc voilà, ça, c'est plutôt, on est en train de sortir de cette civilisation parce que alors après, il y a d'autres. L'imprimerie, c'est un raffinement. Moi, je le vois comme un raffinement de la culture écrite. Et j'ai l'impression que la culture digitale est quelque chose qui est un peu différent, un mélange de des cultures qu'on avait précédemment. C'est-à-dire que on peut publier de l'information beaucoup plus facilement que pour l'écrit. C'est-à-dire n'importe qui avec un smartphone peut faire un podcast, peut écrire un livre, le diffuser dans le monde entier, de manière instantanée. Donc on n'a pas cette barrière technologique de « je vais réfléchir très fort avant d'écrire quelque chose » parce que de toute façon, on peut passer notre journée à écrire. Et puis, contrairement au livre, si j'ai écrit une bêtise dans un livre, je ne peux pas récupérer tous les livres que j'ai diffusés et puis dire « attendez, page 27, il faut barrer la ligne 12 et remplacer ce mot par ce mot ». Actuellement, vous pouvez. C'est, vous écrivez un blog et vous vous rendez compte que vous avez écrit une bêtise, vous pouvez... directement corriger la bêtise, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc il y a une facilité, et puis vous n'êtes pas obligé d'écrire, vous pouvez faire des clips TikTok qui sont compréhensibles, y compris par quelqu'un qui ne parle pas votre langue, parce que la danse, etc., vous pouvez communiquer d'une manière graphique qui n'était pas le cas avant non plus, parce qu'avant d'arriver à produire un film, quand on n'avait pas les téléphones portables, et de le diffuser, c'était très difficile. Donc on a une nouvelle culture qui est énormément différente des cultures précédentes, et la question de comment filtrer l'information intéressante dans cette nouvelle culture, à mon avis, n'est pas du tout tranchée. Ça pose des problèmes parce que maintenant ça marche surtout par le buzz, c'est-à-dire que quand il y a une idée qui pour une raison ou une autre, prend le devant de la place, elle a tendance à tout écraser en fait. C'est les cycles de nouvelles ou les cycles sur Twitter, où sur Twitter tout le monde parle de la même chose pendant 24 heures et puis on change de sujet. Donc ça a des effets néfastes qu'on n'arrive pas trop à contrôler, mais ça a aussi des effets positifs incroyables, hein. La crise du Covid, alors on a l'impression qu'on patauge dans la semoule, etc. Mais quand on prend un peu de recul, c'est juste fabuleux ce qui s'est passé. C'est en un an, on est arrivé à produire 15 vaccins différents, qui sont pour la plupart, ils ont l'air pas complètement horribles. Pareil pour le traitement de la prise en charge des personnes qui sont malades a évolué, mais à une vitesse incroyable. Et ça, c'est du fait de ces nouvelles technologies. Et parce que les médecins, alors moi j'en connais, et quand vous regardez comment ils discutent sur leurs réseaux sociaux, là, sur WhatsApp, en utilisant Slack, enfin tous leurs réseaux sociaux comme ça, ils discutent entre eux, ils disent « voilà, dans mon service, j'en ai eu 15, on a essayé ci, on a essayé ça ». Et en fait, en un an, enfin c'est la science, la pratique médicale a progressé à une vitesse juste inconnue dans l'histoire de l'humanité pour obtenir des résultats positifs. Donc c'est à la fois très positif et il y a aussi des aspects très négatifs qu'on n'arrive pas encore à maîtriser. Et alors je me suis un peu éloigné de la question de départ qui était que les GAFA avaient tendance à se coaliser. Alors je ne sais pas si c'est vraiment... C'est difficile. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à la technologie en elle-même. Il y a quand même quelque chose qui est que ces GAFA, elles sont très... ils se connaissent tous, quoi. C'est-à-dire c'est tous des gens de Bay Area, autour de San Francisco, de la Silicon Valley. Et ça s'est vu, par exemple, sur cette histoire de Trump. C'est-à-dire que Jack Dorsey l'a viré de Twitter, et puis deux jours après, il a été viré de Facebook... trois jours après, c'est Amazon, les serveurs d'Amazon, enfin, c'est Apple et Google qui ont viré l'application Parler de leur store, et puis c'est Amazon. Donc c'est très concerté. Donc par rapport à la question d'origine sur les éditeurs, c'est vrai que pour le moment, c'est extrêmement concentré. Donc j'ai plus l'impression que c'est ça le problème. C'est que les GAFA sont extrêmement concentrés, y compris géographiquement ou même, on va dire, culturellement, quoi. Alors, il se trouve que pour l'instant, c'est surtout un biais progressiste parce que simplement les CEO de ces entreprises-là ont ce biais politique.
En fait, les réseaux sociaux sont des monopoles, on pourrait dire. Et est-ce que c'est justement la raison pour laquelle ils peuvent se permettre de contrôler nos propos? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème?
Alors, je pense que les réseaux sociaux, là, ils sont en train de manger leur pain blanc, tout se passe bien, et que leur position de monopole, c'est quelque chose d'assez transitoire. Parce qu'il y a énormément de solutions qui commencent à émerger du côté du monde des cryptos. Alors, les gens ont tous entendu parler de Bitcoin, mais en fait, Bitcoin, c'est juste une technologie un peu clinquante qui d'ailleurs ne sert pas à grand-chose. Mais il y a énormément de promesses de décentralisation des applications et je ne suis pas persuadé que dans 10 ans, on a encore Facebook, Twitter et Instagram qui tiennent le haut du pavé. Donc sur ça, je suis moins... C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un peu une position de monopole. Mais c'est un peu comme quand la Russie dit qu'elle va plus amener de gaz à l'Europe. À ce moment-là, l'Europe dit oh, « Ok, je vais me diversifier, puis je vais récupérer du gaz ailleurs. » Et finalement, ils ont perdu leurs moyens de pression. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux actuels. C'est-à-dire qu'ils brandissent la menace de l'exclusion. Et mécaniquement, ça pousse les gens à créer leurs propres réseaux sociaux. Et donc, au final, à diluer cette position monopolistique. Donc, pour le moment, je ne vois pas encore, mais je pense qu'il y aura des solutions du côté des cryptos et de ce qu'on appelle les applications décentralisées qui vont apporter des moyens techniques de contourner les choses et ils vont, Ils vont rejoindre le cimetière des... Ils vont rejoindre le cimetière des réseaux sociaux qui ont disparu. Surtout que Facebook, en plus, a pris un tour... Comment dire, au début, Facebook, c'était vraiment un réseau social au sens très familial, c'est des gens que vous connaissez, etc. Et ils sont tournés vers un modèle qui est un peu celui de Twitter, qui est je vous procure de l'entertainment. Et il suffit qu'on trouve l'entertainment à côté, et on n'aura plus besoin de Facebook ni de Twitter. Ce qui n'était pas vraiment le cas au début de Facebook, parce que vous ne pouvez pas retrouver vos amis à côté. Vos amis, c'est vos amis. Mais je pense qu'ils se sont éloignés de ce modèle et je sais pas, je vois pas trop ça persister sur le très long terme.
Alors si on vous entend bien, finalement, il faut comprendre que tous les propos qu'on laisse, qu'on va laisser sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, ne disparaîtront jamais vraiment. Est-ce qu'il va falloir que nous apprenions à vivre avec ?
Alors je pense que oui. Alors c'est pas qu'ils vont jamais disparaître, mais vous devez agir comme s'ils n'allaient jamais disparaître. Alors, et effectivement, c'est une nouvelle culture qui va demander de nouvelles habitudes sociales. Et les nouvelles habitudes sociales, elles vont aller dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens du producteur, c'est-à-dire on va faire attention à ce qu'on écrit, ou plus exactement, on va faire attention à la gestion de nos identités. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre... Alors voilà, ça fait partie de l'apprentissage, comme on apprend à lire, on apprend les règles de la politesse, on apprend les règles du code de la route, et puis on va apprendre que quand on dit quelque chose sur Internet, cette chose-là, elle peut ressortir. Donc on va faire plus attention à ce qu'on dit. Et puis d'un autre côté aussi, on va peut-être être du côté du juge, un peu moins méchant, parce que tout le monde a été jeune, tout le monde a dit des bêtises à un moment donné, ou tout le monde a le droit de changer d'avis aussi. Et ça sert à rien de vous ressortir un tweet d'il y a 5 ans, alors que vous avez expliqué depuis 25 fois que vous avez changé d'avis, et de continuer à dire « Mais si, votre vrai vous, c'est ce tweet-là que vous avez fait le 12 janvier 2007 à 23h », et de vous le ressortir indéfiniment. Et on voit déjà un peu les prémices de ce genre de culture qui se met en place, parce que, par exemple, il y a des choses comme... qu'est-ce qui est vécu comme un péché dans les réseaux sociaux? Et par exemple, ce qu'on appelle le doxing, c'est-à-dire le fait de révéler l'identité de quelqu'un qui publiait sous pseudonyme, c'est universellement mal vu. C'est-à-dire, on peut être de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Bien sûr, les gens de l'extrême gauche vont peut-être des fois essayer de doxer des gens d'extrême droite et inversement. Mais dans le discours moral, les gens... le prennent très très mal, et quand on dit... c'est très disqualifiant de dire « cette personne a révélé l'identité de telle autre personne », eh bien la personne qui a révélé l'identité va en payer le prix fort sur sa réputation. Et donc, petit à petit, j'imagine qu'il y a des us et des coutumes comme ça qui vont se mettre en place. Alors moi, je donne beaucoup de cours en ligne, du fait de la crise du Covid, et j'ai vu à quelle vitesse, donc là c'est à une petite année, les gens se sont adaptés, d'avoir des cours, c'est-à-dire au début on avait les personnes qui suivaient votre cours, elles étaient en train de monter dans un train, on entendait la porte des trains qui se ferme, etc. Enfin, j'ai eu droit à tout, et ça a très nettement disparu sans avoir besoin de faire la grosse voix ou quoi que ce soit. C'est les gens s'habituent et s'approprient le style, ou pas s'approprient le style, créent le style, et je pense que ça va se faire sur les réseaux sociaux aussi, et quand les gens vous ressortiront un tweet d'il y a 8 ans où vous étiez en train de dire n'importe quoi parce que vous étiez complètement éméché dans une soirée, etc. Et puis les gens vont dire « bah oui, c'est comme ça la vie ». Mais ça, je ne pense pas que ça passera par la législation. Effectivement, ça passera par l'acceptation du public qui, pour l'instant, n'est pas encore bien à la page. C'est-à-dire, quand vous voyez un tweet, c'est quelque chose qui est écrit... Et on a presque le réflexe de lui apporter, de voir ça comme un texte écrit, comme de la même manière qu'on était en train de lire l'Encyclopédia Universalis il y a 30 ans. C'est-à-dire, ah, comme c'est écrit, on y fait beaucoup plus attention. Alors que si quelqu'un dit une bêtise, ça a beaucoup moins de portée. Mais je pense que, en fait, bien sûr, c'est un tweet, c'est écrit, mais en fait, c'est la même chose que du langage parlé. Et on devrait y accorder la même importance d'un point de vue moral, presque. Parce que taper un tweet, ça prend authentiquement 1,5 secondes. C'est pas comme quand vous avez publié un livre qui a été édité, lu, relu 15 fois avant d'être publié, et vous êtes en train de dire, je sais pas quoi, je vous fais une théorie sur les germes, là. Et quand vous la publiez, vous êtes sûr que ce que vous publiez, c'est pas trop n'importe quoi, et que quand on y revient un siècle après, on se dit, ah oui, ce qu'il a dit, c'était correct. Mais en fait, on a une espèce de révérence envers l'écrit qui date de notre ancienne culture, qui est la culture de l'écrit, qui, à mon avis, doit évoluer avec la culture digitale.
Eh bien, c'est sur cet appel à la tolérance et à l'essai-erreur que nous allons conclure cette passionnante conversation. Merci beaucoup, Frédéric Pro, d'avoir rejoint Les Contrariantes aujourd'hui.
Eh bien, merci.
Et rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour la prochaine édition.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Le Point.